Le dévoilement de Dieu numéro 104. Les deux vignes. Seule la vraie vigne possède la vie éternelle. Le 7 juillet 2019. Brian Kozurek, pasteur. Ce matin, nous poursuivrons avec notre mini-série sur les deux vignes. Mais n'oubliez jamais que cette mini-série n'est qu'une sous-série de notre série sur le dévoilement de Dieu. Et notre source d'inspiration de ces sermons vient de ce que frère Branham nous dit dans son sermon Dieu dévoilé que nous étudions. Remarquez que frère Branham dit dans Dieu dévoile dîme 14 juin 64 M, 312 et il arrivera, au dernier jour, dit Dieu. Voyez-vous, nous y sommes, là la lumière sur la parole. De même que la lumière du soleil transforme la semence, de gloire en gloire, nous aussi nous sommes devenus, nous devenons de plus en plus semblables à lui, alors que nous vivons dans sa présence, semblables à lui, en devenant conformes à son image bénie, alors que nous marchons avec lui. 313 Observez ce que fait le soleil. Vous plantez une semence. Qu'arrive-t-il? La semence pourrit. À l'intérieur de la semence, il y a une vie. La vie émerge, et elle produit la tige. Or, elle n'y ressemble pas à ce qu'il y avait au début. Ça, c'était à Luther. C'était une tige. Très bien. La tige a poussé et, tout à coup, elle a produit l'aigrette. Voyez-vous, ça, c'était le réveil wesleyen. Ce n'était pas comme l'autre. Ensuite, il y a eu le réveil pentecôtiste, vous voyez, qui a produit le baptême du Saint-Esprit. Très bien. Que s'est stérile passé? On se retrouve avec des champignons sur l'épi. L'apparence commence à clocher. Cette chose-ci, cette chose-là, ça n'y ressemble pas à la parole. Ce n'estère pas comme le reste de la parole. Ce n'estère pas comme le grain originel, qui a été mis en terre. 314 Mais Dieu estère encore là pour produire cela quand même. Maintenant, ce que je veux examiner ce matin, c'estère cette vie qui estère dans la semence de la vraie vigne, qui produit la vie éternelle, et puis je souhaite comparer cette vie éternelle, qui estère la vie Dieu, à la vie qui existe dans la fausse vigne qui n'estère pas le reflet de la vie de Christ, mais qui, néanmoins, possède ses propres attributs et caractéristiques. Dans 1 Jean 5.11 nous lisons, et voici ce témoignage, c'estère que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que, cette vie estère dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Rappelez-vous, ce mot a fut traduit du mot grec écho. Alors relisons ce verset et utilisons le mot original grec non traduit de écho. J'aurais souhaité que les hommes qui ont traduit les saintes écritures, laissent certains mots tels qu'ils étaient et donnaient mi pas les avoir traduits, parce que les laisser tels qu'ils sont nous aurait forcé à les lire tels qu'ils sont vraiment et non pas comme ce que l'homme dans sa théologie veut que cela soit. Comme baptisma, c'est-à-dire un mot dont ils ont gardé la forme, baptême, mais parousia signifie en fait présence et s'ils l'avaient laissé et n'avaient pas essayé de le traduire selon leur théologie, toute la conception de la seconde venue serait très différente de ce que l'Église prêche aujourd'hui. Les gens auraient recherché la présence tant attendue avant le retour du Fils de Dieu. Et comme frère Branham l'a dit, ils auraient vu qu'il y a une apparition qui doit avoir lieu avant la venue. En fait, c'est ce dont il a parlé dans son sermon Dieu de Waldim 14 juin 64 et 362 cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science. Il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même, et ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé. Et puis elle, un jour, à la rivière, avant le début de ce ministère, Lors du premier réveil, il Esther apparut dans les cieux. Il s'Esther identifié et a donné la commission. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilà en Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole. Tel que promis. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Et si vous vous trouvez à l'extérieur de ce voile et de rester à l'extérieur, c'est Esther la mort. Voulez-vous, par la foi, ce matin, dire, avec l'aide de Dieu, avec ton aide, Seigneur, je veux franchir ce voile. Je veux pénétrer là où tu es aille, pour voir la parole entière de Dieu. Et dans son sermon des Sermons 23 juillet 62 225 combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, si Esther l'apparition, la venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans son Église les œuvres qu'il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette Église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Église. 226 est bien. Je n'y suis pas un prédicateur. Vous savez que je n'y le suis pas. Je n'ai pas d'instruction pour l'être. Parfois, j'hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous Néhémie sont pas apôtres. Tous Néhémie sont pas prophètes. Tous Néhémie sont pas docteurs. Tous Néhémie sont pas évangélistes. Je me tiens ici. 227 Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je suis. Je Néhémie le suis pas. Et si je dis mal à qui les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, voyez? C'est Esther de le déclarer, qu'il Esther ici. Ainsi, il parlait de l'apparition du Seigneur et de la venue du Seigneur, et il a dit qu'ils sont deux mots différents apparaître et ensuite venir. Et puis il a dit, maintenant, c'est Esther l'apparition, et cela doit nous préparer pour la venue. Et puis il a dit, et mon ministère Esther de déclarer cette apparition, et c'est Esther sa présence avec nous. Maintenant, revenons à cette vie éternelle qui était en Dieu, puis dans son Fils et ensuite dans tous ses fils. Reprenons à Jean 5 et allons au verset 11, et voici ce témoignage. C'est Esther que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie Esther dans son Fils. 12 Celui qui écho le Fils écho la vie du Fils. Celui qui n'écho pas le Fils de Dieu n'écho pas la vie du Fils. On pourrait maintenant fermer le livre et rentrer chez nous, car il n'y a rien qu'on pourrait ajouter pour vous aider à comprendre que ceux qui ont la vie éternelle feront écho à la vie qui était dans le Fils de Dieu et ceux qui n'aiment possèdent pas la vie éternelle n'aiment feront pas écho à cette vie. N'oubliez jamais que la vie qui était dans le Fils était d'abord en Dieu, le Père, puis a été transmise à son Fils, et ensuite a été transmise à ses autres fils. Et c'est Esther pourquoi nous lisons dans Jean 5.26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et c'est Esther pourquoi le Fils premier-né Esther venu à l'image du Père, comme nous le voyons dans Hébreux 1.1-3. Hébreux 1.1 Dieu, qui, à diverses reprises et de diverses manières, a parlé dans le passé au Père par les prophètes, de dans ces derniers jours, il nous a parlé dans le Fils qu'il a nommé héritier de toutes choses, par qui aussi il créa les mondes. 3 Qui étant l'éclat de sa gloire, le mot grec dit en fait l'émanation de sa gloire et l'image exprimée de sa, la, personne, de Dieu, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, quand il avait lui-même lavé nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté d'en haut. Donc, nous voyons que Dieu, qui estère la lumière, le go et la vie, que de cette lumière estère sortit un éclat de lumière, une partie du logo de Dieu, qui était le Fils de Dieu. Il était la substance lumineuse issue de Dieu, ou l'émanation de ce que Dieu était et ce que Dieu estère. Alors, nous parlons ici de la vie Dieu, et de ce que Dieu estère de façon innée et intrinsèque. Autrement dit, chaque attribut et caractéristique qui constituait Dieu en tant que personne, fut également transféré au Fils en tant qu'émanation. Or ceux qui comprennent la chimie, comprendront ce terme d'émanation. Le mot fga ou émanation en français n'estère pas un si bon terme, parce qu'il parle habituellement d'une nouvelle voiture, d'un nouveau tapis ou d'odeur émise et perceptible lorsque des produits chimiques commencent à se décomposer. Ce que vous sentez estère généralement un gaz toxique, l'émanation de substances chimiques qui ont servi à la production de voitures ou de tapis. Cependant, quand la Bible utilise le terme émanation pour le Fils de Dieu, elle n'est émise par le pas d'un processus toxique, mais elle peint dans notre pensée l'image de la lumière, qui était Dieu, qui estère le logo, et de cette lumière a été tirée une autre lumière, une plus petite lumière, un plus petit logo, une partie de Dieu, qui était le Fils de Dieu. Rappelez-vous ce que Jean nous a dit dans Jean 5.26, car, comme le Père a fait écho à la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils d'avoir, de faire écho à la vie en lui-même. Et puis lorsque le Fils de Dieu fut enseveli dans la tombe et fut ressuscité par Dieu, cette lumière, vie éternelle, qui était en lui fut tirée de lui le jour de la Pentecôte et revint sur des fils. Comme Actes 13.48 nous le dit, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Maintenant, revenons à Jean 5, nous reprendrons au verset 13, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites écho à la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. D'accord? Jean a donc écrit à propos de ces choses, et il écrit afin que vous sachiez que vous faites écho à la vie éternelle. Maintenant, vous penseriez qu'une personne saurait à quelle vie elle fait écho? Mais non. Parce que l'Église a tellement hybridé la parole, que Paul a dû avertir que de recevoir un autre évangile apporterait un esprit perverti, qui n'estère pas de la même nature que l'évangile et l'esprit originel, qui a été prêché et reçu. Par conséquent, comme on le sait, toute personne qui vient au monde reçoit la vie. Sinon vous n'y viendriez pas au monde, mais seuls de véritables fils de Dieu ont la vie éternelle, et peuvent donc faire écho, refléter ou manifester cette vie éternelle qui était d'abord en Dieu et ensuite dans son Fils. Mais parce que l'Église estère tellement hybride aujourd'hui que beaucoup n'émis sont pas sûrs si la vie qu'ils reflètent estère la vie éternelle ou leur propre vie. Et donc, nous voulons connaître la différence entre avoir la vie éternelle et avoir juste la vie. Allons dans nos Bibles ce matin à Genèse 1 et nous lirons le verset 11 pour texte. Maintenant, nous savons que Genèse 1.11 nous parle de la loi de la vie, la loi de la reproduction. Ainsi nous lisons. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. Et, or nous savons que Esther est une conjonction et qu'elle établit un lien entre deux choses. Dans ce cas, le lien qu'elle établit, Sester le fait que Dieu a dit cela et puis ce qu'il a dit Sester manifesté. Et la terre produisit de la verdure, pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. De l'herbe portant de la semence selon son espèce, pourquoi la terre produisit de l'herbe portant de la semence selon son espèce? Parce que Dieu l'a dit. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Par conséquent, je veux que vous remarquiez que lorsque Dieu dit quoi que ce soit, Sa parole se répand comme une semence et cette semence doit se reproduire juste de la façon dont il a dit qu'elle se reproduirait. Par conséquent, l'ordre des événements. C'est d'abord Dieu qui dit la chose, et une fois que la chose a été dite, la chose doit alors se manifester juste de la façon dont il a dit que la chose se manifesterait. Ainsi quand Dieu parle, quoi qu'il dise, cela se produira certainement tout comme il l'a dit que cela se produirait. C'est-à-dire pourquoi dans Ésaïe 55, en commençant au verset 10, nous entendons Dieu dire, « Dis comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » 11 Ainsi en est stérile de ma parole, qui sort de ma bouche, elle n'y retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous avons donc une loi de Dieu et une promesse dans cette loi qui dit, quoi que Dieu dise, il le fera s'accomplir. Or cela concerne les caractéristiques de Dieu lui-même et de sa parole. Car il, Dieu, estère comme les pensées de son âme, cœur, et s'estère de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par conséquent, ce que je veux que vous compreniez, c'est-à-dire que quand vous voyez les caractéristiques de Dieu par sa parole dans chaque âge, vous êtes en train de voir Dieu manifester dans cet âge. Sa parole parlée doit s'accomplir pour un âge. Quand cela s'accomplit, c'est-à-dire la parole de Dieu exprimée pour cet âge. Quand Dieu dit que quelque chose doit s'accomplir dans un certain âge, alors quand cela s'accomplit, c'est-à-dire l'expression de ce qu'il a dit, ou l'interprétation de ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Alors c'est-à-dire Dieu exprimant ses caractéristiques et c'est-à-dire l'interprétation de sa parole pour cet âge. Alors quand vous voyez la perruque blanche, vous voyez le juge des cieux et de la terre manifestant ses caractéristiques pour cet âge. Vous voyez Dieu, la parole, manifestée. Oh, quel peuple privilégié sommes-nous de voir Dieu. Rappelez-vous, Paul a dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Cela signifie sous forme d'énigme, vous savez, de puzzle ou de mystère, mais alors nous verrons face à face, et c'est-à-dire pourquoi il dit, sourire. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Autrement dit, Dieu dit, les caractéristiques qui sont exprimées par moi maintenant seront exprimées et publiquement manifestées dans cet âge où ma parole s'accomplira. C'est-à-dire pourquoi Jésus a dit dans Jean 14.12 « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais en ce moment. » Autrement dit, les expressions que j'exprime maintenant, il les fera aussi, où il exprimera cette même caractéristique en cet âge-ci. Alors ce que nous avons vu en cette heure n'est-ce rien de moins que Dieu lui-même se manifestant dans ses propres caractéristiques. Ainsi ce que Dieu dit, c'est-à-dire qu'il utilisera le vase de celui qui croit pour faire la même chose qu'il a faite dans son fils Jésus. Et il l'a fait dans William Branham et il le fera en vous et en moi si nous croyons et avons le même esprit qui était en lui. Parce qu'après tout, ce n'était pas le Fils qui faisait les œuvres, c'était le Père qui faisait les œuvres. Par conséquent, Jean 1.14 et la parole a été faite chair, Dieu lui-même a été fait chair, et a habité parmi nous, et c'est-à-dire la même chose que 1 Jean 1.1 ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, moins deux car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Comment? En étant identifié et donc identique à la vie et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, moins trois ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est terre avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Or nous savons que Moïse était la parole de Dieu manifestée pour son âge, et Élie était la parole de Dieu manifestée pour son âge, et Jésus était la parole de Dieu manifestée pour son âge, et Paul était la parole de Dieu manifestée pour son âge, et William Branham était la parole de Dieu manifestée pour son âge. Et savez-vous que l'épouse de cet âge doit également être la parole de Dieu manifestée et exprimée pour cet âge de l'épouse? Maintenant, je n'ai émis par le pas de ce que ces autres hommes enseignent, que l'épouse serait la plénitude de la divinité. Ce truc est une absurdité. Mais si Dieu a une parole à manifester en cette heure, déclarant qu'il aura des fils qui seront semblables à l'image du Fils premier-né, ça sera alors la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et si c'est la parole promise pour cet âge de l'épouse, alors quand nous commencerons à voir cette vie manifestée dans les fils de Dieu, nous verrons Dieu manifesté à nouveau dans cet âge. Or, au paragraphe 137 de la parole parlait Esther la semence originelle. Frère Branham dit, 137 Jésus Esther la parole de Dieu. Et il a été percé pour que la vie Esther à l'intérieur de la semence, que cette vie qui Esther esprit, l'eau, en se répandant, que l'esprit, en se répandant sur la semence de Dieu, produise la vie de la semence. Et si cela produit autre chose, c'est-à-dire qu'il y a là une semence d'une autre espèce. Amen. Comprenez-vous cela? L'assemblée dit, Amen. NDE, si l'Esprit de Dieu vient arroser la semence, si c'est-à-dire bien la semence qu'il arrose, cela produira la vie de la semence. Esther se claire? Amen. Cela produira la vie de la semence, car c'est pour ça qu'il a été donné. Par conséquent, il nous faut comprendre l'importance de la vie de la semence parole que nous recevons parce que si la semence parole contient la vie, et si c'est la semence parole correcte que nous avons reçue, alors la vie même qui est dans cette semence doit se manifester, ou il y a quelque chose qui n'est émis va pas avec l'image. Car la loi de la reproduction nous dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Doit impérativement? Pas d'il se peut que. Pas d'il y a des chances que. Mais la promesse est qu'elle doit impérativement se reproduire selon son espèce ou nature. Et on nous dit comment cette vie vient en nous dans 1 Pierre 1.23 puisque vous avez été régénérés, vous êtes nés de nouveau. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ainsi, nous voyons ici qu'il y a deux sortes de semences, une semence corruptible et une semence incorruptible qui estère la parole de Dieu vivante et permanente. Autrement dit, elle estère éternelle. Et c'est estère ça que nous voulons. Pas un mort-né par un système dénominationnel mort, mais une naissance vivante à un Dieu vivant par une parole vivante. C'est Esther pourquoi Jésus a dit dans Jean 6.63 « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mes paroles sont vie. » C'est Esther pourquoi l'apôtre Paul fut cité dans le livre des Actes 17.28, comme disant « Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. » C'est Esther ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Pour nous, la parole Esther vit. De Pierre 1.2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Maintenant, je veux que vous remarquiez comment la grâce et la paix viennent à vous. Il a dit qu'elles viennent par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vous y êtes. C'est Esther de cela qu'il s'agit dans la doctrine de Christ. Alors pourquoi voudriez-vous parler d'autre chose? Pourquoi voudriez-vous avoir des sermons sur des questions humaines telles que se focaliser sur la famille et comment s'entendre et comment être un bon chrétien et toutes ces absurdités qu'on prêche là-dehors alors que la grâce et la paix viennent à vous à travers la connaissance de Dieu et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Esther le Fils de Dieu. C'est Esther ainsi que la grâce et la paix de Dieu se multiplient dans votre cœur. Obtenez cette connaissance de Dieu et de son Fils, et vous serez non seulement en paix avec les autres, mais vous serez en paix avec vous-même. Car comment pouvez-vous être en paix avec les autres si vous n'êtes pas en paix avec vous-même? Et comment pouvez-vous avoir la paix si vous êtes sous le légalisme et la loi? La grâce Esther ce qui vous donne la paix, et vous n'y pouvez pas comprendre cette paix parfaite, qui vient par une grâce parfaite à moins que vous compreniez la relation entre Dieu et son Fils aîné, et ainsi que ses fils. Tous ces sermons de faire ceci et de faire cela et de pousser dans ceci ou dans cela, ce sont tous des absurdités. Esther comme suivre un régime de glucides. Ils appellent les glucides de la nourriture réconfortante mais cela vous tue, et vous rend gros et inconfortable. Alors, comment cela peut être de la nourriture de bien-être? Quel mensonge! Il nous raconte. La parole de Dieu n'est-elle pas de la nourriture réconfortante? Cela aura le goût du miel, quand cela descend mais cela deviendra amer à l'intérieur. Parce que cela vous fera pourrir et vous rendra malheureux. Mais ce processus de pourrissement commencera en vous ce changement et aura pour résultat l'image même du Fils premier-né. En fait, c'est ce que le message du septième ange Esther censé faire. Apocalypse 10.7 Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a énoncé à ses serviteurs, les prophètes. Puis c'est la voix que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 9 Et j'allais vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. 10 Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. C'est ce moment où vous savez que vous êtes en communion avec l'auteur et le consommateur de votre foi. En fait, j'ai entendu des gens dire que le vin de la communion est vraiment amer. Il est en effet censé être amer. C'est ce que Dieu destinait pour la Pâque juive, dont la communion est un type. Nous lisons dans Nombre 9.11 ils la célébreront. Le 14e jour. Entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Exode 12.8 Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors entrez simplement en Christ, la parole, et ouvrez votre cœur à sa parole et cette parole, qui estère la vie de Christ, s'ouvrira à vous et libérera en vous la vie de Christ. Remarquez, Pierre poursuit, 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, sa propre doxa et par sa vertu. Alors si sa puissance divine dont Paul nous parle dans Romains 1.16 que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour nous. Ainsi, Pierre nous dit ici que c'est la parole de Dieu. Sa divine puissance, et c'est sa parole qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Cela signifie tout ce qui contribue à être à l'image du Fils premier-né qui est à l'image de Dieu. Et tout cela vient au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, par les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu, et les jugements de Dieu et ce mot vertu fut traduit du mot grec arete, qui signifie virilité. Autrement dit, qui n'est plus un jeune garçon, mais un homme adulte prêt pour l'adoption de fils. Et comment se déroule ce fait de devenir adulte en lui en toute chose? Par sa parole qui contient la vie même de Dieu à l'intérieur. Paul a dit dans Corinthiens 13.9, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, dis mais quand ce qui est terre parfait sera venu, ce qui est terre partiel disparaîtra. 11 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 13 Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Revenons à ce que Pierre a dit. Dans 2 Pierre 1 reprenons le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Écoutez, la promesse de Dieu, c'est sa parole. Si je vous fais une promesse, je vous donne ma parole, afin que par elle, par quoi? Ces promesses, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ainsi nous voyons donc que la nature divine vient par la parole de Dieu. Par conséquent, lorsque frère Branham parle de la semence étant ouverte afin que la vie dans cette semence puisse se manifester, il est alors opportun que la vie de Dieu se manifeste quand la parole est ouverte ou révélée. Alors voyez-vous l'importance de l'ouverture des sceaux en cette heure et de l'ouverture de tout le livre pour la première fois de tous les âges? C'est parce que la parole semence se manifeste dans ses vraies caractéristiques. Rappelez-vous de ce que nous vous avons lu ce matin dans Dieu de voile où frère Branham dit, 312 de même que la lumière du soleil transforme la semence, de gloire en gloire, nous aussi nous sommes devenus, nous devenons de plus en plus semblables à lui, alors que nous vivons dans sa présence, semblables à lui, en devenant conformes à son image bénie, alors que nous marchons avec lui. Observez ce que fait le soleil. Vous plantez une semence. Qu'arrive-t-il? La semence pourrit. À l'intérieur de la semence, il y a une vie. Et c'est pourquoi Paul a dit dans Colossiens 3.1 « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et que veut dire être ressuscité avec Christ ?» Ce même apôtre Paul a dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, alors il vivifiera également votre corps mortel. » Ressusciter avec signifie que la vie qui était en lui est revenue sur vous lorsqu'elle jaillit de son côté. Et Paul dit, s'il en est ainsi, alors cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Autrement dit, focalisez-vous sur les choses de Dieu pour cette heure. 3. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et comment est ce que votre vie est cachée avec Christ? Pas le sang. Car quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et quand vous êtes nés de son esprit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Quand Dieu voit la tête qui est Christ, vous êtes une partie de ce corps. Alors il n'est mis voit que le sacrifice qui le fut une fois pour toutes, et vous êtes caché avec Christ en Dieu, la parole. Alors, remarquez ce que Paul dit, et je veux que vous le saisissiez, car c'est la promesse de cette heure. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, ce mot, c'est phanero. Il signifie manifester dans ses vraies caractéristiques, alors vous paraîtrez aussi, alors vous fanerez aussi. Vous serez manifesté dans vos vraies caractéristiques, avec lui dans la gloire, avec lui dans la doxa, avec lui dans son opinion, avec lui dans ses valeurs, avec lui dans ses jugements. Pourquoi? Parce que la pensée de Christ est maintenant vous. Par conséquent, étant dans cet état, alors Paul dit. Et avant de lire cela, sachez que ce qui suit sont les attributs de la pensée charnelle. Et rappelez-vous, chaque réveil produit des jumeaux, un charnel et un spirituel. Et Paul dit donc si vous êtes vraiment mort et que votre vie est vraiment cachée avec Christ en Dieu, alors, 5 faites donc mourir, tuer les membres qui sont sur la terre. Et Paul fait pour nous la liste des attributs auxquels vous devez mourir, alors que nous voyons le numéro 1, qui est l'impudicité. Tuez cela. Cela est mort pour vous. Un homme mort-né ne peut pas se livrer à la fornication. 2. L'impureté. C'est l'immoralité qui mène à la fornication. Mais un homme mort-né ne regarde pas ce qui est obscène. Il est comme Job qui a fait un pacte avec ses yeux qu'il ne regarderait pas une femme dans le but de la convoiter. Job 31.1 J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Paul a dit, vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 3. Les passions. Cester la convoitise. Comment un mort peut-il convoiter quelque chose? Il est mort. Et sa vie est cachée avec Christ, et 5. Les mauvais désirs. Cester avoir très envie de ce qui est interdit. Et rappelez-vous. Comment un mort peut-il désirer convoiter des choses qui Néhémie sont plus à ses portées? Des choses que Dieu n'aime veut pas que vous ayez, car elles détruiront votre moralité. Et 6. La cupidité. Qui est une idolâtrie. Alors qu'est ce que la cupidité? C'est de vouloir tellement quelque chose que vous êtes prêt à l'obtenir frauduleusement. Et Paul nous dit que lorsque vous êtes arrivé à cette extrémité, la chose est devenue une idole pour vous et Dieu considère cela comme de l'idolâtrie. Et puis il nous dit si c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 7 parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. D'accord? Jusque-là Paul a touché les plus vils des attributs du péché associé à l'incrédulité. Mais maintenant, il commence à nous montrer ce qui suit. 8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. 1. À la colère. 2. À l'animosité. 3. À la méchanceté. 4. À la calomnie. C'est-à-dire de dire des choses qui nuisent à la réputation de quelqu'un. 5. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et puis il ajoute 6. 9. N'aimez montez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. 10 Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. Alors vous y voilà. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de Dieu, qui a créé le Fils de Dieu. Alors, plus vous vous focalisez sur l'image de Dieu, le Fils premier-né de Dieu comme modèle, plus vous devenez semblable à lui. De même que la lumière du soleil transforme la semence, de gloire en gloire, nous aussi nous sommes devenus, nous devenons de plus en plus semblables à lui, alors que nous vivons dans sa présence, semblables à lui, en devenant conformes à son image bénie, alors que nous marchons avec lui. Paul nous dit que nous devons être semblables à l'image du Fils premier-né dans une vaste famille de frères. 11 Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Étant parvenu à cette image par la connaissance de Christ, puis Paul nous dit 2:12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 1. D'entrailles de miséricorde. 2. De bonté. 3. D'humilité. 4. De douceur. 5. De patience. 13. 6. Supportez-vous les uns les autres? Et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre? 7. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14 mai 8. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui estère le lien de la perfection. 15 et 9. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et 10. Soyez reconnaissants. 16. 11. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment en toute sagesse. 12. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. 13. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 17. 14. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. 18. 15. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient, comme il est approprié, ou la bonne chose à faire dans le Seigneur. 19. 16. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 20. 17. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Pourquoi? Car cela est agréable dans le Seigneur. 21. 18. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils n'aient se découragent. 22. 19. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. 23. 20. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. 25. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Maintenant, revenons à 2 Pierre 1, reprenons au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, ce qui estère l'excellence morale et la justice, à la vertu la science, 6 à la science la tempérance, Sester la maîtrise de soi, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 7 à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 8 car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance ou augmentent continuellement, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, peu m'importe à quel point vous pouvez, de votre bouche, parlez de la doctrine. Si cela ne vous a pas été vraiment révélé, il n'y aura pas de manifestation de cette vie dans votre vase. Mais si la doctrine de Christ vous a vraiment été révélée, alors la vie même de Christ, sa propre vie qui a été libérée au calvaire, reviendra sur vous et se manifestera dans votre vase. Pas seulement ça, mais comme avec toute vie, elle continuera d'augmenter et d'augmenter dans l'expression de cet amour divin et sacrificiel, qui était en Christ et qui a été également répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Puis Pierre dit, 9 mais celui en qui ces choses n'est mis son point ester aveugle, il n'est mis voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et c'est ester si désolant de se trouver dans un tel état en cette heure de sa grande apparition, parce que c'est alors où nous devons recevoir le phénomène de ces caractéristiques vivant d'elles-mêmes en nous. Dans son sermon Les images de Christ le 25 mai 5919, pouvez-vous voir l'engourdissement de l'Église d'aujourd'hui? Qu'est-ce il arrivait au jour du Seigneur Jésus, quand ceci s'est passé? Cette femme fut si transportée, qu'elle laissa tomber sa cruche d'eau pour courir au village. Elle dit, le Messie est ici. 120 mai de nos jours. Oui, vous n'avez pas encore assez imploré à l'autel pour recevoir la nouvelle naissance. Il y a quelque chose de faux quelque part. Cela enverrait le Saint-Esprit dans ce lieu-ci, qui susciterait un réveil, le reflet de Jésus-Christ, son image conforme, ici, se déplaçant parmi les gens pour le faire. 121 Qu'arrive-t-il ? Il y a quelque chose qui manque. Nous avons besoin d'un réveil. 122 Combien d'autres sont malades ? Levez la main. Ceux qui sont malades et dans le besoin, imposez-vous les mains les uns aux autres. Prions. Imposez-vous les mains tout de suite. Soyez prêts à recevoir votre guérison. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez être guéri tout de suite. Finalement, Pierre dit, Dis-Sester pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car, en faisant cela, vous n'émibroncherez jamais. 11 Esther ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ainsi Pierre a dit, bien que vous sachiez ces choses, il serait bien également que je continue de vous les rappeler de peur que vous n'ayez mis les laissiez vous échapper. Ainsi, nous parlons de la vie même qui était en Christ, qu'il a reçue de son Père. Jean 5.26 Esther la même vie qu'Esther a été répandue au calvaire. 1 Corinthiens 15:22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Par Christ et par Christ seulement, nous avons la vie. Tous les autres n'apportent que la mort. Et donc, si Christ est venu en cette heure, Esther avec une seule chose à l'esprit, nous donner la vie. Esther pourquoi on a pris et placé sa photo dans le magazine Life, qui signifie vie en français, note du trad. Esther pourquoi Jésus a dit dans Jean 10:10 moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Et donc, nous voyons que Jésus est venu dans l'alpha pour donner la vie. Alors, cela doit également se répéter dans l'oméga. Frère Branham dit dans son sermon, l'unité dimanche février 6289 qu'Esters, vous devez être en accord avec la parole. Vous laissez être tué complètement. Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous, mes amis, ont reçu le Saint-Esprit, mais nous recevons nous simplement assez de Saint-Esprit pour nous amener à ce point où nous n'aimons voulons plus mentir, nous n'aimons voulons plus voler, nous n'aimons voulons plus faire n'importe quoi. Mais Dieu veut remplir chaque fibre de son Église. Il veut remplir votre pensée, il veut remplir votre esprit. Il veut remplir tout votre être, vous amenant à mourir complètement et totalement à vous-même ou plutôt à vos pensées, à vous abandonner à Dieu au point où sa parole vivra en vous. Vous n'y savez rien d'autre, si ce n'est citer à la parole de Dieu. Restez juste avec sa parole. Sester cela la vie. Mes paroles sont vie. A dit Jésus. Il a établi au milieu d'eux des docteurs qui croient la Bible, des prophètes qui disent la vérité, qui proclament et qui montrent la même prophétie qu'ils avaient toujours accomplie au fil des âges. Qu'a-t-il fait? Il se manifeste comme étant vivant au milieu d'eux, confirmant sa parole. Sa parole. Le royaume de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu transformée en puissance. Or le plus triste Esther, que la plupart des gens n'aient mis, croient simplement pas la parole de Dieu. Car s'ils croyaient vraiment sa parole, ils prendront vie au contact de sa parole car sa parole Esther la vie. Et si la parole de Dieu n'Esther pas vivante pour vous, c'est Esther parce que vous n'êtes pas vivante pour elle. Dans Jean 20.31 nous lisons mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus Esther le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Dans Jean 12.49 Jésus a dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. » Ainsi, nous devrions être capables de voir que la parole, ou semence, de Dieu contient la vie. Mais cette vie, du moins certaines parties de celle-ci, Néhémie se révèle ou Néhémie se manifeste que dans certains âges. Or le verbe révéler vient du mot grec apocalypsis signifie ouvrir ou découvrir ce qui a été caché. Ainsi donc, ce que nous étudions, dans le sens de la parole étant une semence, c'est-à-dire ceci, bien qu'elle contienne la vie même de Christ en elle, elle a été cachée dans la terre comme n'importe quelle semence. Colossiens 1.26 Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. 1 Corinthiens 2.7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, et tant que la vie est cachée dans la terre, elle n'est mise peut pas manifester les attributs de cette vie, comme Jésus nous le dit dans Jean 12.24 en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Par conséquent, on nous dit qu'à chaque âge une certaine partie de cette vie est manifestée, et il faut une certaine lumière pour produire cette manifestation. Jean 17.1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Remarquez ici que Jésus prie le Père, et il dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Nous voyons donc ici que Jésus demandait à Dieu de doxazo ou de produire par le biais de la manifestation l'opinion, l'estimation et le jugement de Dieu en lui afin que lui, à son tour, manifeste l'opinion, l'estimation et le jugement de Dieu au monde. Puis il poursuit dans sa prière, « De selon que tu lui as donné au Fils de Dieu pouvoir sur toute chair, afin qu'il, le Fils de Dieu, accorde la vie éternelle à tous ceux que tu, Dieu, le Père, lui, au Fils de Dieu, a donné. » Nous voyons donc dans ce verset que Jésus a reçu le pouvoir de Dieu lui-même de donner la vie éternelle à tout ce que Dieu avait donné à son Fils de vivifier à la vie. Maintenant, remarquez alors dans le verset suivant, Jésus explique ce qu'est cette vie éternelle et ce qu'elle fera. 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or c'est plutôt une puissante déclaration à la lumière de la doctrine de Christ. Il a dit, la vie éternelle, de connaître celui qu'il priait, qui était le Père, qu'il est le seul vrai Dieu, et de connaître également Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu manifester le Père, que le Père a envoyé. Dans 1 Jean 5.20 Et nous savons que le Fils de Dieu est revenu, et nous a donné l'intelligence, afin que nous connaissions celui qui est vrai, et que nous soyons en celui qui est vrai, même ou de la même manière que nous étions en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est vrai le seul vrai Dieu, et la vie éternelle. Donc, nous voyons ici que Jésus-Christ dans sa prière au Père, à laquelle les apôtres ont assisté pour l'entendre, leur a fait savoir que la vie éternelle se manifeste par la connaissance du Père et par la connaissance du Fils qui a été envoyé par le Père. Par conséquent, Si vous n'aimiez connaissez ni le Père ni le Fils et essayez de dire que Jésus est son propre Père, comment pouvez-vous avoir la vie éternelle? Je pose cette question en me basant sur ce que Jésus nous dit ici. Il dit que la vie éternelle, c'est de connaître le Père et de connaître le Fils. Et donc en est-il si vous n'aimiez connaissez ni le Père ni le Fils? Alors, avez-vous la vie éternelle si c'est ce que Jésus nous décrit qu'elle est? Il Néhémie nous dit pas que par la connaissance de la parole nous aurons la vie éternelle, mais de le connaître, lui, c'est la vie. Dans son sermon Les Investissements Sam, 14 mars 64, frère Branham dit, 22 et bien, nous voyons que ce n'était pas parce qu'il n'était pas membre d'une église, ce n'était pas parce qu'il n'avait pas une bonne moralité. Il remplissait ses conditions. Mais, nous pouvons être membres d'une église et avoir une bonne moralité sans pour autant avoir la vie éternelle. Il ne s'agit pas de connaître les paroles. Certains d'entre eux sont des théologiens, des érudits, des enseignants de l'école du dimanche, d'autres tiennent des conférences sur la Bible. Mais cela ne veut rien dire. Satan connaît cette Bible mieux que n'importe qui d'entre nous. La Bible dit que le connaître lui, c'est la vie. Il ne s'agit pas de connaître la parole. Le connaître lui, c'est la vie. Satan croit aussi, et il tremble. Mais nous devons passer par une expérience de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre vieille vie pour passer à la nouvelle vie, qui vient de Christ. Cela n'est mis vient que par le Saint-Esprit, la nouvelle vie. Vous voyez, tout le monde est si disposé à dire que la preuve d'être né de nouveau est de croire la parole. Mais ce n'est pas ça la preuve. C'est de connaître Christ dans sa puissance de résurrection. Le connaître, c'est la vie. Et si sa parole s'est ouverte à vous, alors la vie de cette parole se manifestera en vous. Vous n'aimez pouvez pas naître de nouveau jusqu'à ce que la vie de Dieu entre en vous et vous vivifie par sa vie et à sa vie qui est la seule forme de vie éternelle. Et ils disent que croire le message de leur Esther est la preuve que vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu la vie éternelle. Et puis ils vous diront que le message de leur Esther, que Dieu a envoyé un prophète. Or comment Jésus pourrait-il dire que la preuve, c'est Esther de connaître le Père et de le connaître, et frère Branham nous dire quelque chose de différent? Mais le fait Esther que frère Branham Néhémie nous a pas dit quelque chose de différent. Mais en fait, il a dit, mon ministère, c'est de le déclarer, qu'il est ici. Et le verbe déclarer, signifie un. Faire connaître formellement ou officiellement. 2. Révéler, rendre manifeste, montrer. Ainsi, nous pouvons voir que ce que frère Branham a dit, c'est exactement ce que Jésus a dit. Parce que si son ministère était de le déclarer, qu'il est ici et le verbe déclarer signifie faire connaître, alors cela signifie que son ministère est de vous aider à connaître celui qui est ici, Dieu lui-même. En le connaissant, vous connaîtrez aussi son Fils qu'il a envoyé. Et c'est ce qu'est la vie éternelle. Alors de simplement pouvoir en parler n'est pas la vie éternelle, et de pouvoir mémoriser des citations, ou même des sermons entiers, n'est-ce pas la vie éternelle. Ce n'est-ce pas non plus de mener une bonne vie. Mais la vie éternelle est-ce de connaître Dieu et de connaître son Fils. Vous voyez donc pourquoi la doctrine du Christ est-ce si importante pour nous? Car sans elle, vous n'aimez pouvez pas naître de nouveau à la vie éternelle. Or écoutez, le même apôtre Jean qui a écrit cette prière de Jésus dans l'évangile de Jean, a également écrit ces paroles dans son deuxième épître. 2 Jean 1.8 Prenez garde à vous-même, afin que vous n'ayez perdiez pas le fruit de votre travail, pour lequel vous avez travaillé, mais que vous receviez une pleine récompense. 9. Quiconque va plus loin, cela veut dire aller au-delà des limites. Et Néhémie demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et le verbe avoir a été traduit du verbe grec écho. Ainsi, ceux qui Néhémie demeurent pas dans la doctrine de Christ Néhémie, peuvent pas faire écho à Dieu. Ils Néhémie peuvent aucunement le refléter. Mais celui qui demeure dans cette doctrine, et cela veut dire que celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il allait, fait écho au, 2. Au Père et au Fils. 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine de Christ qui parle d'un Père et d'un Fils. Néhémie le recevait pas dans votre maison. Et Néhémie lui dit pas, salut. Or c'est-à-dire une chose dure à dire de la part de Jean. Pourquoi l'a-t-il dit alors? Jean nous le dit au verset suivant. 11. Car celui qui lui dit, salut, participe à ses mauvaises œuvres. Remarquez ici qu'il vous fait savoir que quiconque n'a pas cette doctrine de Christ doit alors avoir une fausse doctrine de Christ, et ainsi ce qu'ils ont émis vient pas de Dieu, mais d'une autre source et l'ester donc mauvais. Nous voyons donc que connaître Dieu et connaître son Fils ester la vie éternelle, et il n'y a pas moyen de contourner cela. Et la vie éternelle, c'ester qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, autrement dit, il vous dit seulement qu'il n'y a pas d'autre Dieu, c'est-à-dire donc la connaissance de ce Dieu unique et de Jésus-Christ, qu'il a envoyé, qui vous donne la vie éternelle. Alors Néhémie pas connaître Dieu et son Fils montre que la personne manque de la vie éternelle. Parce que si le ministère de William Branham était de déclarer Dieu, qu'il ester ici est déclaré, signifie vous faire connaître celui qui ester ici. Alors de Néhémie pas connaître, cela montre que vous Néhémie connaissez pas son message. Et si vous Néhémie connaissez pas son message, alors vous n'avez pas la preuve dans votre vie de la nouvelle naissance. Parce qu'il Néhémie suffit pas de connaître que Dieu a envoyé un prophète. Vous devez connaître le message, et croire ce message. Et si vous prenez et repoussez ce message de côté et fabriquez votre propre message, que Dieu a envoyé un prophète, et que c'est-à-dire tout ce que vous devez croire, alors vous Néhémie, faites que vous mentir à vous-même quant à ce qu'est-à-dire vraiment le message, et cela prouve que vous n'êtes pas né de nouveau. Maintenant, poursuivons avec la prière de Jésus. Maintenant, revenons à Jean 17.4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai montré au monde ton opinion, ton estimation et ton jugement pendant mon séjour sur la terre, j'ai fini le travail que tu m'as donné de faire. 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, et maintenant, Père donne-moi cette opinion, cette estimation et ce jugement qui estertiennent de la gloire, l'opinion, l'estimation et le jugement que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, le verbe garder ici vient d'un verbe grec qui signifie s'occuper avec soin. Donc nous voyons que, quand Jésus nous dit qu'ils ont gardé la parole de Dieu, cela signifie qu'ils ont été très prudents et très attentifs à la parole. Ils ont prêté une grande attention à la parole de Dieu et savent qu'elle a été donnée à Jésus par Dieu lui-même. Car Jésus dit, « C'est maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Or, remarquez au verset 8 « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. » Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Or je veux que vous remarquiez ici ce que Jésus dit dans cette prière. Il nous fait savoir qu'il nous a donné les paroles que Dieu lui a données, 8 car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et puis il nous dit que non seulement il nous a donné les paroles que Dieu lui a données, mais nous avons reçu ces paroles et ils les ont reçues, et le verbe reçu a été traduit du verbe grec lambano qui signifie prendre pour soi, prendre possession d'eux, s'en approprier afin de l'utiliser pour notre avantage, comme si cela nous appartenait. Et puis, Jésus nous fait savoir qu'en recevant la parole que Dieu lui a donnée et qu'il nous a transmise, nous parvenons à une compréhension de Dieu, et une compréhension de comment et de pourquoi il a envoyé son Fils. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Maintenant, c'est important, parce que Jésus rend témoignage au Père que la parole qu'il a donnée à son Fils nous a été transmise. Et ce faisant, nous avons reçu cette parole et avons su d'où elle venait, et ainsi avons su la différence entre le Père et son Fils. Et ce n'est pas qu'une compréhension mentale dont il parle. Mais le verbe recevoir signifie la prendre pour soi afin de l'appliquer à soi. Autrement dit, cela parle d'une parole vivante qui, une fois reçue, devient vivante pour nous et en nous. Et nous vivons la parole qui nous a été donnée. Nous devenons ainsi cette parole manifestée dans notre vase. Car elle nous a été donnée pour notre bien, et s'estère pour prendre vie en nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle, et cela signifie que nous connaîtrons le Père et nous connaîtrons son Fils, et connaîtrons comment Dieu agit dans chacun de ses enfants, faisant vivre sa parole en chacun de nous. Acte 17.28 Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. S'estère ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Éphésiens 3.19 Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 20 Or, à celui qui peut faire, ni vous ni moi n'y faisons, mais à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Ainsi, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Christ qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et Paul dit, sourire. 21 À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Jean 3.36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'aimait croit pas au Fils n'aimait verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, avril 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.